avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. C'est le moment, comme tous les lundis, après 23h, d'accueillir nos drôles de dames pour notre tour d'Europe traditionnel avec les avis tranchés. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe.
Salut mon cher Jean-Louis, salut à tous et à toutes.
David Lorto était déjà avec nous tout à l'heure. Salut David.
Allô Freund, salut à tous.
Fred Hermel en Espagne. Salut Fred.
Hola chicos.
Et Simone Rovera sera là dans quelques secondes. Il nous parlera de la Juve championne. Et peut-être.
Bon, on avait compris. Hein.
Pourquoi tu l'as dit bien une fois et une fois pas bien.
Non, mais en plus, il m'a regardé comme s'il me traduisait. Quoi,
tu fais comme
s'il
y avait grec.
Ouais, mais bon, ça.
La Juve.
La Juve,
c'est. Oui, on a compris la Juve.
Mais bien sûr. La Juventus.
Je suis plus à l'aise sur la prononciation espagnole, mais bon. Ah. Fred va nous parler de l'Atlético dans une seconde.
Atlético
de Madrid. Voilà.
Non, Atlético.
L'Atlético.
L'accent sur le. C'est Atlético.
Ah oui, non, les accents, j'ai vite abandonné, moi.
Ouais, c'est compliqué, hein, mais voilà. C'est ce qu'on appelle l'accent tonique et c'est sur le. Là, c'est accentué sur la deuxième
saison. C'est bon, ça, quand c'est
Atlético.
Est-ce que tu sais que l'un.
Mais c'est Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, bien entendu.
Est-ce que tu sais qu'un des meilleurs joueurs de poker au monde en ce moment est supporter de l'Atlético?
Ah non, espagnol?
Adrian Mateos Diaz, qui est dans une équipe française, le Team Winamax, il a gagné hier le 6-mix. Entre autres, hein, parce que vu les millions qu'il accumule ces derniers mois.
D'accord, mais c'est un espagnol?
Oui, c'est évidemment que c'est un espagnol.
C'est le meilleur joueur du monde actuellement.
Meilleur joueur du monde actuellement.
Eh ben, dis-donc, franchement, deux finales, finale Ligue Europa, finale Ligue des Champions, le poker. Ils sont forts, les espagnols.
Ah ouais, là, pour le coup, lui, au poker.
On te rappelle, Fred, que tu n'es pas espagnol.
Il est presque.
Non, je sais bien. C'est pour ça que je suis admiratif.
Je vais te dire, il est.
Mais je vais te dire, puisque c'est intéressant que tu touches ce point-là, j'ai beaucoup de respect pour le pays qui m'accueille depuis 25 ans. Et je le défendrai toujours.
Bah oui, heureusement.
Daniel, est-ce qu'il y a plus d'écart entre toi et Nadal au tennis ou entre toi et Mateos Diaz au poker?
Bah, le truc, c'est que sur un coup de chat, Mateos Diaz, je peux lui faire une horreur. Nadal, même avec un coup de chat, je peux pas y arriver.
Tu peux lui faire un point, mais un match, ça va être compliqué.
Mais non, mais en plus, je crois même que d'un point de vue poker, il est plus impressionnant que ce que fait le Real. Tu devrais t'intéresser à ce mec-là.
Ah ouais.
Ah, tu devrais t'intéresser à ce type. Il est absolument fait. Mais d'ailleurs, c'est une vraie question. Il faudra qu'on se renseigne et qu'on en parle. Est-ce que ce mec-là est connu et reconnu à sa juste valeur dans le pays?
Non.
C'est
non.
Un gamin de 23 ans. C'est un pur génie, le gars. Ah ouais.
Pourtant, l'Espagne, c'est un pays où les cartes, les jeux et tout ça en général.
C'est
un pays de joueurs, de gamblers, la roulette et tout ça. Et d'ailleurs, il y avait un.
Là, c'est pas du tout du gambling. Lui, c'est du jeu de cerveau.
Non, mais Daniel et Fred,
moi, j'adore. J'aime bien le poker. Hein, mais vous savez ce que vous pouvez faire? Vous vous rappelez un dimanche à minuit?
Super.
Le sujet dans le RMC
poker. Un petit peu sur lui en Espagne, s'il te plaît.
D'accord, je m'enseigne. Écoute, après le 26 mai, parce que là, je suis un peu occupé.
Oui, t'as raison. Avis tranché de Philippe Auclair. Venir sur le bilan de la saison en Angleterre et David Lorto donc sur la relégation historique d'Hambourg en Bundesliga. Ça fait beaucoup de bruit. Mais on commence donc par Fred Jingle Hermel.
Son but le plus rapide, 2 secondes 08.
2 minutes 08. Je pense.
2 minutes 08.
J'ai dit quoi?
2 secondes 08, mais... c'est moi ça. Oui, un petit peu l'autodérision, ça fait jamais de mal. Alors, on va parler de la
saison. L'autodérision, hein, Fred?
Bah, bien sûr. Hein.
Ah oui, d'accord,
okay. Fred, parle aux supporters marseillais qui nous écoutent à deux jours de cette finale de l'Europa League.
Bien entendu, hein, l'actualité est celle-ci. C'est vrai que même si les joueurs de l'Atlético disent tous c'est du 50-50, etc. Non, c'est pas du 50-50. Et ce que j'ai pu observer ces dernières semaines, surtout ces derniers jours, et ce que j'ai vu à Retafé lors du dernier match de l'Atlético où il a joué avec 9, 10, des 11 qui vont débuter la finale contre l'OM mercredi soir à Lyon, je parle de Simeone, on a pu voir un petit peu les forces en présence. Bon, ils sont vraiment très forts là. C'est-à-dire que physiquement, tout le monde est prêt. Voilà, donc c'est un effectif complet qui va voyager à Lyon demain.
Dans leur tête, vraiment, hein, pour ceux qui diraient.
Ah oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, je répondrai à plusieurs questions qu'on m'a posées sur Twitter là-dessus, sur le supposé manque d'intérêt. Dans leur tête, ils sont très forts. Défensivement, ils sont presque intouchables. Je vois pas comment l'OM va trouver la faille dans cet Atlético qui
est tout à l'heure, Fred.
Ouais, mais vraiment, et moi c'est pour moi, je peux dire aujourd'hui c'est du 80-20. Voilà, pour
moi. C'est ce que j'ai dit moi aussi.
Cet Atlético aujourd'hui, c'est du 80%. Parce que on dit ouais, mais attention s'il y a un mec qui est expulsé au bout de 5 minutes. Ouais, ils ont vécu ça il y a 3 semaines et c'est Arsenal, ils ont plus le coup et ils ont même égalisé alors qu'Arsenal menait 1-0. C'est-à-dire qu'il faut un OM qui mais parfait en défense parce que l'Atlético, je connais aucune équipe en tout cas moi qui sait autant profiter des erreurs de l'adversaire et les rendre mortelles. C'est-à-dire que l'Atlético tu fais une erreur, Ça marque un but et après tu peux pas revenir. Donc voilà, j'aimerais bien donner d'autres informations, mais là l'Atlético me semble aujourd'hui presque imbattable dans cette finale. Tellement ils sont prêts et pour répondre aux questions que beaucoup de gens me posent sur Twitter en disant ouais, on a l'impression qu'il y a pas une folie à Madrid, etc. Évidemment, c'est pas comme en France. En France, il y a pas de finale de Ligue Coupe européenne depuis 2004. À Madrid, c'est quasiment tous les ans. Donc, y a un gros intérêt, mais il n'y a pas une folie autour de ce match, comme il n'y a pas forcément une folie autour de la finale des champions. Il y a un fol intérêt, mais c'est pas un événement historique parce que ils sont là tout le temps quasiment. Donc, l'Atlético, c'est quand même 4 finales jouées entre Ligue Europa et Ligue des Champions en 8 ans. Donc, ça fait une tous les 2 ans. Donc, c'est pas un événement. Ils en ont très très envie, mais c'est pas un événement national, on va dire. En Espagne, pour répondre aux questions qui m'ont été posées aujourd'hui sur Twitter.
Non, et puis il y a une différence entre la résonance de l'événement et la motivation des joueurs aussi sur
le terrain. Bien sûr, bien entendu. Tu avais raison. Ah bah là, ils sont à fond, hein.
Bah oui.
Et je peux te dire que la manière dont ils ont eu le match à Retafé, c'était vraiment la répétition générale. J'y étais. Ils ont rien lâché là-bas. Hein. Et c'était vraiment. Et c'était pas ce truc de finir deuxième devant le Real. C'était pas ça qui comptait.
Oui, et ce qui peut compter, donc, c'est de matérialiser aussi cette domination par un titre pour certains joueurs qui n'étaient pas là du titre de champion.
Bah, commencer par Griezmann.
Voilà.
Griezmann, il arrive l'été 2014 après la finale de Ligue des Champions et après cette victoire en Liga. Et donc lui, il est. Et d'ailleurs, il avait dit un mot juste après la qualification contre Arsenal en disant bah c'est mon tour de gagner un titre. Donc il a l'impression qu'on lui doit quelque chose. Voilà, c'est dans sa tête en tout cas et c'est ce qu'il exprime.
Griezmann, d'ailleurs, on en est où de la prolongation, l'offre, les 20 millions nets?
Ben, l'Atlético a fait une proposition, on a appris ça par la radio Copé en fin d'après-midi, à plus de 20 millions nets. C'est-à-dire qu'ils savent, parce que Griezmann n'a toujours pas pris sa décision, ils savent que s'il avait décidé de partir pour le Barça avant Noël, aujourd'hui il n'en est plus si sûr, il est en plein doute, et pour essayer de le faire douter un petit peu moins, ou en tout cas le faire douter en faveur de l'Atlético, il y aurait eu, d'après la radio Copé et un journaliste qui est très très proche de l'Atlético, une offre encore plus importante. C'est-à-dire que là, il serait quasiment mieux payé que Cristiano Ronaldo au Real.
Au-delà de l'argent, juste sur le choix sportif, Daniel Pierre, selon vous, ce serait un bon calcul de rester encore à l'Atlético, ou est-ce que c'est pas le moment de grandir, d'aller se frotter à un autre club, sortir de sa zone de confort?
C'est pas un petit club, hein.
Ça dépend de la proposition, ça dépend quel club, il y a beaucoup de choses à prendre en considération.
Il est pas mal non plus. Après, plus que le club en lui-même, moi je parlerais plus de est-ce qu'il a envie de rester là-bas avec ce coach-là, etc. Plus sur le plan, est-ce que lui est prêt à ça, quoi?
Est-ce que lui est prêt? Est-ce qu'il a envie, moi je vais retourner la question, est-ce qu'il a envie d'être au service de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il a envie d'être la star ici et que tout le monde travaille pour lui? Parce que si tu vas à Barcelone, tu travailles pour Messi, ce qui est logique. Et Neymar, il est parti aussi parce qu'il voulait voler de ses propres ailes et être le premier bénéficiaire des succès
Après, tu peux aussi aller dans un... C'est pas toujours comme ça, on n'est pas toujours obligé de le voir comme ça. Il peut également aller dans un club et être une autre star à côté de la grande.
Oui, et puis profiter de la grande pour gagner plus de choses.
On peut ne pas avoir envie d'être forcément la seule star et unique. D'ailleurs, à l'Atlético, je suis désolé, c'est le club de Simeone, pour reprendre notre fameuse théorie là.
Non, mais oui, bien sûr. Mais sauf que sur le terrain, tout est mis en place pour que Griezmann, le meilleur joueur, débute.
Oui.
Voilà, Diego Costa, il met des pains aux défenseurs, il fait tout le sale boulot et il donne les ballons à Griezmann.
Mais ce serait pas déshonorant pour lui d'aller jouer au Barça. La seule question à lui de se poser pour aller au Barça, c'est quelle place il aura, où il jouera, avec qui, comment. C'est ça les questions qu'il doit se poser. C'est pas de savoir s'il y a Messi, au contraire, c'est bien d'aller jouer avec Messi.
C'est moins confortable qu'à Madrid. On pourrait penser que le confort finalement c'est pas terrible dans une évolution de carrière.
C'est ça qui me gêne, Fred, à chaque fois que t'en parles, c'est qu'on a l'impression qu'il a pas envie de se mettre en danger, qu'il a pas envie d'aller se frotter à un plus grand club qui pourrait gagner la Ligue des Champions.
Et l'Atlético, c'est un club.
Ils ont fait deux finales.
Ça veut dire quoi? Real et Barça, c'est quoi?
C'est un des deux. C'est Real ou Barça?
C'est Real ou Barça. Mais comme le Real ils sont sur Neymar, là ils sont plus sur Griezmann.
Vous pouvez pas me dire, moi l'Atlético j'adore ce club, j'adore ce qu'ils font, mais vous pouvez pas me dire
que c'est pas au niveau du Real et du Barça.
Bien sûr que non.
Après, il se pose la question, il va au Real.
S'il veut devenir un top joueur mondial, il faut passer le cap. Et je trouve que s'il reste à l'Atlético, si c'est pour rester dans son confort, c'est pour des mauvaises raisons. Bah, le Barça ou le Real.
L'un des deux.
Non, mais ou un grand club anglais, je sais
mais
pas.
En Angleterre, il veut pas y aller parce que sa femme veut pas y aller.
Mais donc, c'est bien ça, voilà. Le problème.
C'est ça aussi. Parce que, mettre en avant sa vie personnelle aussi.
Mais moi, je comprends pas ton raisonnement, Jean-Louis. Moi, je vois pas ce qui serait terrible pour lui de dire je reste dans son
Moi, je comprends la différence que tu fais entre le Real Barça et l'Atlético. Moi, je pense qu'il peut continuer à progresser à l'Atlético. C'est pas gênant.
Excusez-moi d'intervenir, mais est-ce que la solution de confort, c'est pas précisément d'aller au Real ou au Barça? C'est là où c'est le plus facile.
Peut-être, ouais.
Si tu veux vraiment tester, je vais gagner Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid. Ça me paraît être si on parle de challenge, entre guillemets, c'est un challenge autrement plus difficile.
Dans un système, il n'y a qu'un coach, quoi.
Oui, je suis d'accord avec toi.
C'est très contraignant.
Je suis d'accord avec toi, Philippe, mais c'est pas confortable d'aller s'imposer au Barça ou au Real. C'est supérieur. S'imposer là-bas, c'est justement sortir de ta zone de confort, prendre le risque d'être remplaçant à un moment, alors que si tu restes à l'Atlético, tu sais que tu joueras tout le temps, que tu seras titulaire.
Parce que au Barça, le système aujourd'hui, il va jouer où là?
Le problème que j'ai avec Griezmann, je vais aller au bout de mon idée, après on passera au reste, mais je trouve que s'il reste à l'Atlético, tout ce que tu nous décris, Fred, c'est pas pour les bonnes raisons. S'il avait dit comme Philippe dit, moi je veux rester pour gagner la Ligue des Champions, OK. Mais si c'est parce que ailleurs, il va le voir.
Non mais ça il peut pas le tenir, Jean-Louis, le discours.
À Madrid ou à Barcelone.
Mais il peut pas le tenir parce que dans la période où il est
d'autres joueurs, ça me plaît
la
pas
période
comme
où il est là, il peut pas tenir ce discours-là. Il est en pleine négociation entre plusieurs clubs, il peut pas dire ça, c'est pas possible. C'est pas possible.
Je peux vous donner un exemple.
Il peut pas dire j'ai envie de rester à l'Atlético pour gagner la Ligue des Champions. Il peut pas le dire en ce moment. Il est en train de négocier sur différents tableaux.
Il a le droit d'être bien dans un club.
Il peut pas dire si ouvertement. Il te le dira.
Il était pas bien avant Noël. Il était plus bien.
Il est extasié quand un joueur fait toute sa carrière dans un club ou quand il est attaché à un endroit.
Mais surtout quand le club est à l'Atlético.
Voilà, merde.
Ça, il te le dira peut-être après avoir signé, moi, je pense.
Bon, d'accord. Philippe, oui, tu voulais dire?
Je voulais prendre l'exemple d'un joueur qui était resté dans un club plus longtemps que peut-être qu'il ne l'aurait dû pour atteindre ses buts de carrière, c'est Thierry Henry. Titi aurait pu se barrer d'Arsenal bien avant le moment où il s'est tiré. Il a fini par la gagner, sa Ligue des Champions, avec Barcelone.
D'accord. Il était au roi Barcelone?
Ça c'est autre chose.
Ah non, mais il n'était pas. Il a dû se mettre au service des autres. Hein. Il a dû se mettre sur un côté. Je sais, il me l'avait dit. Un jour, on a parlé comme ça après un match. Il me dit, c'est pas si facile pour moi que d'être ici.
Ouais. Mais évidemment. Mais
parce que le confort, c'est Arsenal.
Mais dis ça.
Et c'est la même chose.
Alors, écoute, excusez-moi, mais là, moi,
Attends, Arsenal, il faisait plus ce qu'il voulait qu'à Barcelone, où il a dû changer de place, où il a dû se mettre au service d'autres joueurs, où il était quand même mis sur un côté. Il souffrait de ça. Il n'était pas très à l'aise.
Juste la chose que je voulais dire, c'est que.
Champions.
Mais c'est que Titi qui a joué une finale de Ligue des Champions avec Arsenal à 10 contre 11, ils ont été à un doigt de la gagner, ne l'oublions pas. Ça m'a fait vraiment frapper. Il m'avait dit, si je la gagne avec, je veux la gagner, si je la gagne avec Arsenal, elle vaudra 10 Ligue des Champions gagnées avec Barcelone. Et je me souviens, ça m'avait vraiment frappé comme il avait dit.
Oui,
et c'est les yeux dans les yeux. Et c'était, je me dis, mais absolument, c'est un choix de carrière totalement honorable.
Le supporter de la Roma, un titre à nous, sans vos 10 de la Juve.
non, bien sûr, c'est tout à fait,
c'est honorable.
Et l'Atlético qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, qui a été à 3 reprises dans son histoire, dont 2 récemment, très près de la gagner, parce que ça, en plus, ça joue à rien, hein, à chaque fois, c'est vrai que Griezmann pourrait être celui qui permet de passer ce cap, quoi. Mais, voilà, après, moi, je l'aime bien, c'est un bon gars, mais c'est aussi quelqu'un qui met sa famille, sa vie quotidienne, presque au même niveau que sa carrière.
Moi je trouve ça très respectable et très
bien. Parce qu'il avait une offre de Manchester United, sa femme, ça lui plaisait pas d'aller vivre à Manchester quand t'habites à Madrid, et on peut la comprendre pour des raisons de confort, de le soleil, tout ça, ces choses-là, quoi, de qualité de vie, et voilà, c'est pourquoi son avenir aujourd'hui.
Moi je trouve que c'est très juste. Et comme disait Don Corleone, un homme qui ne passe pas de temps avec sa famille n'est pas un homme.
Mais ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir.
Il était entraîneur de quel club
Mais les siens, ils seraient pas avec lui peut-être à Manchester. Enfin bon, ça n'a
pas de sens. Ouais, non, mais il pleut.
Mais s'il pleuvait pas,
si la famille
est pas, c'est magnifique. Je ne suis pas.
Non, non, mais on va pas rentrer dans les questions personnelles.
Avec les chats, tu sais.
De toute façon, j'aurais utilisé les chats.
Non, mais on va pas rentrer dans les questions personnelles. Mais cette histoire de Manchester, ça a été très compliqué.
Oui, mais donc, si dans la carrière, si dans l'évolution de sa carrière, il faut aller à Manchester.
Manchester United, t'as plus de solutions de gagner la Ligue des Champions qu'à l'Atlético.
Donc, c'est pas un bon choix sportif. Mais si tu considères que c'est un meilleur choix sportif d'aller jouer en Angleterre, et bah ta femme, tes enfants, je sais pas qui, s'ils aiment pas la pluie, ils font un effort et ils vont en Angleterre.
Mais c'est toi qui dois imposer ta loi, ta femme,
oui,
à tes
mondes. Oui,
mais voilà la vision de la vie de Monsieur Jean-Louis.
Bah, si tu es sportif de haut niveau, ben il va te l'expliquer. C'est exactement ça.
Pour être bien dans ta peau, il faut que ta famille le soit bien aussi.
Alors, si je peux parler quand vous aurez fini,
Pierre,
mon Dieu, effectivement, surtout pour ces joueurs-là, c'est pas forcément vrai pour des joueurs qui sont à des niveaux bien inférieurs et qui parfois doivent en plus sans mettre plein les poches, effectivement faire des concessions pour aller jouer dans des endroits qui sont pas très très sympas. Mais là, honnêtement, quand t'atteins ce niveau de rémunération, ce niveau de club où tout est fait pour que tout soit parfait, que tu sois, je suis d'accord avec Jean-Louis, en Espagne, à Londres, en Allemagne.
Ah, tu vis pas mieux à Madrid?
Laisse-moi finir, Daniel. À ce niveau sportif, de rémunération, de confort, etc., parce que t'es confortable partout.
Mais parce que vous pensez qu'au blé,
je te parle pas que du blé, j'ai dit d'autres mots, Daniel. À un moment donné, je pense que ta famille, que ce soit tes enfants et ta femme, peuvent faire des concessions deux ans, sur trois ans, et tu peux tout à fait vivre heureux à Londres, ou à Manchester,
Manchester, je pense que c'est pas pareil. Mais c'est évident, Pierre. Il fait exprès de pas comprendre, Daniel. Mais si, c'est sûr.
Tu vois, Daniel, ça, c'est le genre de truc où tu vas regretter demain, ça.
Mais
c'est possible.
Je vous comprends, et je ne suis pas d'accord.
Moi, je suis d'accord avec Daniel pour une fois. Ah. Voilà. Mais le choix familial, c'est aussi parce qu'un joueur, c'est. Mais par exemple,
mais
quand quelqu'un propose
ton évolution de carrière,
mais ça pénalise. Mais t'es pas arrêté à fait.
C'est ça.
T'es pas
arrêté
à fait.
Mais d'accord, Daniel. Mais c'est pour ça que je dis si ça pénalise ton évolution sportive.
Mais ça le pénalise pas.
Oui, là, dans ce cas-là. Bon, Fred, vite fait, le Barça qui a été battu.
C'est un match super, hein, battu 5-4, parce que le Barça a pris un petit peu par-dessus la jambe cette rencontre.
Ouais, c'est scandaleux, ce Barça, comme le PSG qui laisse filer les fins de championnat, c'est scandaleux.
Contre l'Evante, qui est une équipe qui, il y a 3 mois, était condamnée à la deuxième division. Ils ont changé de coach, et ils ont enchaîné plein de victoires. D'ailleurs, ils viennent d'enchaîner 5 victoires, là, pour terminer.
Ouais, c'est beau ce qu'ils ont fait.
Et c'était la fête. C'était la fête à l'Evante, et le Barça était, ils ont pris un petit peu de haut, ça, et ils ont commencé notamment Jeremina, la recrue colombienne là, on a l'impression que voilà, il a joué son premier grand match au Barça, et ben sûrement son dernier. Voilà, comment tu es t'es testé dans un match comme ça, il a été mauvais, il a fait plein de conneries, et le Barça après essayé de revenir, etc., mais il y avait tellement d'envie du côté de Levante. Alors c'est vrai que la question de la sensibilité, c'est pas important, quoi. J'ai un gros écho, je m'entends parler.
Et ben, on va s'arrêter là, on avait compris le principal.
C'est ce qu'ils font en régie maintenant quand ils en ont marre, tac, ils foutent l'écho, et puis voilà.
Ouais, d'accord.
On a pas réussi à le faire à Daniel encore, hein, mais bon.
Même avec l'écho, tu sais, Daniel, il tient le coup. Non, enfin, pour dire que, c'est pas dramatique parce que, en Espagne, ce record d'insensibilité, c'est pas un titre, quoi. C'est pas très important.
D'accord.
Ouais, mais enfin, quand même,
Non, mais en Espagne, c'est pas important.
Ouais.
Bah, il te dit que c'est pas important.
Et je précise que c'était ironique quand j'ai dit que c'était scandaleux.
Oui, bien sûr.
J'ai le Barça, les fins de championnat, bien sûr.
Dans un instant, avis tranché de Philippe Auclair, le bilan de la saison en Première Ligue. C'est dans l'after. À tout de suite. Ah, mais Simone Rovera aussi nous a rejoint. Le salut. Salut, Simone. Allez, à tout de suite dans l'after. Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot dans l'after, avec les drôles de dames également, Fred Hermel, Simone Rovera, David Lorto. Et oui, on vous montre Simone sur BFM Sport parce qu'il est là, ça y est,
je suis
arrivé.
Là, je suis là.
On ne demande pas ce qui s'est passé pour le petit retard, non.
La famille passe avant.
C'est ça, ouais.
La famille et le chat. Si tu ne passes pas de temps avec ta famille, tu n'es pas un homme.
Voilà.
Je suis un homme, mais tu peux passer du temps à Londres avec ta famille.
Non, visiblement non.
Et si tu passes Manchester, du temps, c'est pas pareil.
Manchester. On me demande si tu passes du temps avec ton chat. Est-ce que t'es un homme, Daniel?
Ah, si tu considères qu'il fait partie de ta famille,
oui.
Simone.
Enfin, Manchester, c'est pas si moche que ça. Cristiano Ronaldo s'apprécie.
Ouais, tu connais. Attends, on vit quand même un petit peu mieux à Londres qu'à Manchester.
Moi, je suis en déprime totale au bout de 2 jours là-bas.
Ouais, mais parce que tu n'y vis pas, parce que t'as pas tes attaches, parce que t'as pas des amis, t'as pas des, tu vois.
Bah après, il y a des gens sur qui le climat n'a aucun impact, mais moi, je peux pas, je craque direct. Ah,
voilà. Il faisait un temps magnifique aujourd'hui pour la parade de Manchester City.
Ah ouais, il y a 4 jours de beau temps dans l'année.
À peu près, oui, en effet.
Il y a le jet privé qui les attend après les matchs, et ils vont faire 2 jours en Espagne ou je sais pas où quand ils veulent.
Et puis ils
vont le prendre. Dans ces cas-là, ils ont qu'à y rester puisqu'ils sont dans un grand club déjà.
Après, il y a des gens qui arrivent à se satisfaire du peu qu'ils ont, Daniel. Ouais, puis là, 4 jours de soleil, ça suffit parfois.
Et puis le peu, là, il faut juste savoir apprécier les choses. Quand même, le peu, là,
mais non, mais moi je suis ch'ti. Mais un jour, moi j'adore, mais un jour tu découvres le soleil et tu reviens pas.
Exactement.
Messieurs Jingle au clair.
Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi.
Et là, c'est le moment du bilan, bilan au clairien.
Oui, non mais écoute, bilan d'une saison un petit peu paradoxale dans la mesure où il y a eu pratiquement aucun suspense pour ce qui était du titre. On a vu et su très tôt qu'il y avait une équipe qui se détachait du lot. Manchester United a essayé de s'accrocher au wagon mais n'y est pas parvenu. Et donc, tu pourrais dire, bon, bah, une saison un petit peu pas très folichonne. Et en fin de compte, moi j'ai l'impression d'être au terme d'une... Bah oui, d'une saison qui pour moi était l'une des plus séduisantes que j'ai vues depuis un bon bout de temps, en l'occurrence, en Angleterre. Et c'est dû en grande partie... à ce que le champion a proposé. Et je crois qu'il est un petit peu tentant peut-être d'oublier parce qu'il s'est passé contre Liverpool en Ligue des Champions en particulier, ce que Manchester City nous a offert, les records qui ont été battus. Et il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de records qui ont une vraie signification. Les 100 points, la première équipe à atteindre ce sommet, l'avance sur le second, Manchester United, 19 points, c'est quand même assez hallucinant. Le nombre de buts marqués, 105 buts, c'est un record. Même nombre de points conquis à l'extérieur qu'à la maison. Nombre de victoires consécutives. On peut continuer comme ça pendant longtemps, mais surtout le fait qu'on a un champion qui pour moi a pris davantage de risques dans le jeu que quelque autre champion que j'ai jamais vu en Angleterre. Je dis bien que quelque autre champion que j'ai jamais vu en Angleterre. Et la prise de risque est quelque chose qu'on voit pas trop, je dirais, dans le football contemporain. C'est quelque chose qui est dans le projet guardiolien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aimer ou ne pas aimer à Manchester City, le club. Il y a beaucoup de choses qui me laissent très froid, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a des choses qu'on peut ne pas aimer dans la personnalité de Guardiola. Par contre, il y a des choses qu'on doit admirer dans le jeu, et le fait qu'ils ont complètement illuminé cette saison de champion d'Angleterre, et pas contre des équipes qui étaient c'était pas contre des équipes en transition, c'était contre des équipes qui avaient des vrais objectifs. Le Chelsea de Conte qui était champion, le Tottenham de Pochettino qui a montré de belles choses, qui encore une fois de plus est tombé au dernier moment, le Liverpool de Klopp bien évidemment, et on peut continuer comme ça longtemps. Et c'est bizarre qu'une saison qui était autant à sens unique au niveau du champion ait été une saison qui était aussi séduisante par ce qu'il nous a offert, ce qu'elle nous a offert, et notamment, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Pierrot, toi Jean-Louis, Daniel, et vous autres, les drôles de dames, ça faisait un bout de temps que j'attendais un champion d'Angleterre qui offre des grands matchs. Ah ouais. Et là, on en a eu beaucoup cette saison. On en a eu beaucoup. Alors que les saisons précédentes, souvent, les montagnes accouchaient de toutes petites souris. Là, on a eu des vrais grands matchs de football, et un football anglais qui pour moi, se porte bien et se porte mieux grâce à Manchester City.
Pierre, toi qui as suivi plein de matchs
entièrement d'accord, avec l'avis de Philippe, ça a été une saison de première ligue, et le paradoxe effectivement soulevé par Philippe est assez criant, c'est que c'est une saison dominée de la tête aux pieds par Manchester City. Il y a eu un tout petit moment à un moment donné où ils ont failli se faire rejoindre, mais on a commencé à titiller, à se dire ça a duré deux week-ends et c'était fini. Donc le suspense, il y en a eu zéro pour la place pour le titre de champion, et pourtant on a vécu chaque match de Manchester City, on kiffait vraiment, quoi. Ouais. On kiffait vraiment parce que
même le dernier. C'était simplement atteindre les 100 points, c'était
il y a plus d'enjeu. Et après là où je rejoins Philippe aussi, c'est sur la qualité des affiches, des grosses affiches qui ont été proposées en première ligue, où là il y a eu du jeu, des buts, enfin ce qu'on attend en Angleterre, et on l'a eu, quoi, et on l'a pris en pleine
Pierre, soyons tout à fait honnêtes, il y avait plusieurs saisons qu'on l'attendait, où on n'avait pas nécessairement ce genre de choses, où on avait notamment des amis de Manchester qui étaient épouvantables. Là on a une équipe de Liverpool qui a apporté, t'as beaucoup d'équipes qui ont apporté, t'as des équipes comme Burnley qui a apporté, t'as des équipes comme le Leicester de Puel, le Crystal Palace de Hudson, et puis le Liverpool de Klopp, bien évidemment, et même Arsenal par moment a joué son rôle, c'est dire quelque chose. Ouais. Et même le Manchester United de Mourinho a eu des moments où ils ont produit du jeu, ils ont produit très beaux matchs. Donc,
et puis Philippe, moi je rajouterais à ça pas mal de matchs aussi que j'ai eu la chance de commenter avec des grosses équipes qui se sont fait bouger parfois aussi par les petits. Et ça en Angleterre c'est quand même vachement spécifique quoi. Tu sais que c'est jamais fini et puis ce que tu pressens à chaque fois arrive quoi. C'est-à-dire le petit qui lâche rien, je me rappelle de matchs où de petites équipes étaient menées 2-0, 3-0 à la mi-temps et puis ça se finit en 2-2. En 3-3, et t'en as un paquet de matchs comme ça cette saison aussi.
T'en as eu quelques-uns, oui. T'as des équipes comme Newcastle de Rafa Benitez, mais bref, c'est une saison que j'ai trouvé très séduisante, alors que franchement, paradoxalement, tu n'as pas nécessairement tous les éléments pour ça. Mais bon, espérons que ça soit un signe de progression vers un football qui soit en effet plus séduisant. Parce que, encore une fois, on en avait parlé, je m'en souviens avec Daniel, on en parlait, on se disait souvent, ces matchs, on les annonce, c'est des affiches ronflantes, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham, et puis bon, tu restais sur sa fin. Pas cette fois-ci.
Là, les Liverpool City, c'était la folie.
Ouais, ça a été le 4-3 c'était c'est pour moi un match de l'année pour moi.
Philippe, tu voulais nous parler également des déclats de Pochettino.
Oui, et c'est une espèce. Je suis demi de mêlée. Je passe le ballon au demi d'ouverture, Fred Hermel, parce que en l'occurrence, moi, j'ai trouvé les propos de Mauricio Pochettino à l'issue du dernier match de Tottenham. Bon, remporté 5-4 sur Leicester, un match de ouf. Mais bon, ouf, parce que les défenses étaient un petit peu ouf. Et où il a parlé de ses ambitions, mais en mettant des si et des si et des si, en insistant sur le fait qu'il était indispensable que son propriétaire, ou ses propriétaires, en l'occurrence son Joe Louis et Daniel Levy, mettre les fonds pour être à la hauteur de son ambition. C'était, alors tu peux prendre ça de deux façons. Soit c'est un message très pas du tout caché à son board pour leur dire bon, je mets un peu de pression. Soit c'est un appel du pied à d'autres. Et je vous avouerai que ça m'a un petit peu surpris la façon dont il a présenté ça. Et je n'avais pas entendu ce discours de la part de Mauricio Pochettino. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ailleurs.
Ouais, mais.
Non, en Espagne, il n'y a que deux clubs libres importants, l'Athletic Club de Bilbao et Séville.
Il n'y a pas ni l'un ni l'autre, en l'occurrence. Voilà.
Philippe. Mon interprétation, effectivement, j'ai entendu et ça m'a surpris un petit peu venant de lui. Et en même temps, après, j'ai essayé de comprendre. C'est quelque part peut-être la volonté chez lui de s'affranchir, de dire qu'il a grandi. Je pense que pour Tottenham, c'est pas rien pour l'histoire de ce club. Tu la connais mieux que moi, mais faire troisième de première ligue derrière les deux Manchester, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Ah ben c'est 3-2-3 sur les trois dernières saisons.
Exactement. Donc je pense que
les matchs contre le Real Madrid, qui sont des matchs références, les matchs contre le Borussia Dortmund.
Voilà. Tottenham installé dans le top du foot anglais, historiquement, il fallait remonter un peu et c'est pas si fréquent derrière les habituels. Donc Pochettino est un peu en position de force maintenant et qu'il ait envie de grandir encore. De mettre la pression comme pour dire bon, regardez en Angleterre ce qu'on fait, c'est bien. Regardez en Ligue des Champions. Bon, il y a eu grosse déception après la Juve, mais on voit bien que c'est pas passé vraiment très loin non plus.
Et il y a eu d'énormes satisfactions et de grandes soirées.
Donc il y a matière à progresser. Donc Daniel Levy, comme en plus, on sait qu'il est un peu raclo, le gars. Si t'alignes un peu pour avoir 2-3 joueurs et tout, je peux faire plus. Je crois pas qu'il ait réellement envie de partir. Je pense qu'il a justement envie de faire progresser et que c'est un coup de pression, à mon sens, très arménien.
Encore bravo. C'est également la façon dont je perçois les choses, mais j'avais juste été surpris par ces déclarations. Mais bon, je suis d'accord avec toi, Daniel.
Ouais, il a un peu envie de grandir, quoi.
Tu voulais ajouter un mot sur Conte aussi, Philippe?
Oui, très vite, Conte. Allez. Bon, les joueurs, il y a une finale de FA Cup à jouer le week-end prochain contre Manchester United, ça n'est pas rien. Et vous dire qu'il y a déjà des rumeurs qui circulent comme quoi Conte pourrait être viré avant la finale de la FA Cup, c'est vous donner une idée de l'état actuel des choses. Oui, absolument. Alors, il s'agit peut-être d'une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie qui est reprise par beaucoup, beaucoup de gens. Les choses vont très, très mal. Ils se sont pris une raclée à Newcastle. Rafa Benitez, qui a profité de l'occasion, bien évidemment, pour faire renifler au toutou ce qu'il avait fait un peu plus tôt. 3-0 contre un club promu. Ça la fout mal. Conte la tronche des très 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 mauvais jours. Bon, c'est la fin de règne qui s'annonce.
Ça se voit, le survêt, la barbe,
c'était terrible.
C'est fou, hein.
Juste info c'est du marqué. Soir, c'est excuse-moi, pardon, mais info du soir, c'est la qualification d'un de mes clubs de cœur, Fulham, et de mon stade préféré, l'occupant de mon stade préféré, Fulham, Craven Cottage, va jouer la finale des barrages avec contre Aston Villa. Oui. Ça va être un très 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 gros match à Wembley. Ça sera le 26, donc ça sera votre levée de rideau de la Ligue des Champions, les gars. C'est comme bien. Ça qu'il faut voir les choses. Ouais. Et puis sinon,
contre qui la finale?
Contre Aston Villa, tu imagines,
c'est Aston Villa, pardon.
Ah, c'est ouais. une très très belle affiche. Et puis ouais. Des nouvelles de Liverpool, tout va bien. Je vous remercie. Il n'y a pas eu de danger pour perdre la place dans le top 4. Ils ont joué le coup à fond. Ils se sont donc qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Il n'y a pas de blessés à déplorer. Salah revient. Firmino est toujours aussi bon et ils ont la pêche.
Parfait, très bien, merci Philippe. Il y a eu plein de choses à dire aussi autour des Français en Angleterre, mais on aura le temps de reparler
de voilà. Mendy, de Martial et tout ça. Exactement. S'ils sont sur la liste ou s'ils n'y sont pas, ce qui me paraît plus probable.
Eh ben écoute, on en reparle. Là, Jeannot Rességuier qui suit les Bleus nous disait Mendy il y sera. Même
Il a pas joué, mais c'est pas grave.
Même sans avoir joué, Jeannot. Moi, je fais confiance à Jeannot.
Ah, sur l'équipe de France. Il est un peu béton. Est-ce que Jérôme Rotten a confirmé?
Ah non.
Parce qu'il y a Jeannot béton sur les Bleus.
Ouais.
Et Jérôme sur Deschamps.
Ah ouais, c'est vrai,
à
c'est
deux,
pas mal.
Ça.
Bon, on demandera à Jérôme demain, qui sera là dans l'after. Pierre Dufaux, Daniel Riolo sont là dans l'after sur RMC, sur BFM Sport en simultané. On est avec les drôles de dames, comme tous les lundis. Pendant une heure, on passe en revue toute l'actu grâce aux avis tranchés des drôles de dames. L'actu européenne, on a fait l'Espagne, on a fait l'Angleterre, on va faire l'Allemagne dans un instant, mais place tout de suite à l'Italie. Jingle Rovera.
T'as un animal de compagnie, toi, ou pas?
Oui, un chat.
Et à quoi ça sert? Tu lui parles et tout?
Ouais.
Tu dis ça va, Perry? Ouais, t'es content?
Oui. Je le fais jouer, je lui lance les jouets, les petits
ballons.
Les petits ballons?
Ouais,
et ça le ramène ou pas?
Non.
Ah non, bah alors à quoi ça sert?
Bon, voilà.
C'est encore pire.
Ça, c'est du
un chat.
Ouais,
un chien.
Nos amis Philippe, David et Fred ont raté le grand débat d'hier soir. À quoi ça sert avoir un animal de compagnie?
Oui, je l'ai raté aussi, oui.
Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à la
miette. Qu'est-ce que tu dis, David?
Non, je disais, j'étais en voiture, j'ai pas manqué une miette, je vous ai écouté hier soir, c'était passionnant.
Attends, faut que j'écoute le podcast là, parce que
pour Daniel, ça sert à rien.
Mais c'est comme tes enfants, Daniel, à quoi ils servent?
Ah non, tu peux pas comparer le chat et les enfants, quand même.
Comparaison, alors là,
c'est bon. Ah lui, c'est bon,
que tu compares le soleil en Espagne, il a la grisaille de Manchester, ok, ça passe, mais.
Alors toi, t'es le ballon dans le manège, toi. Tu vois le truc qui pend, là, le truc complètement con, que Mom essaye d'attraper. Ça, c'est Jean-Louis Tour, ça.
Le pompon.
Le pompon, voilà.
Ton
oh mon dieu, ce qu'on vient d'entendre.
Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant,
mais
voilà, l'animal de compagnie.
Les gens qui raisonnent comme toi sont ceux qui préfèrent les animaux aux hommes, et ça m'inquiète beaucoup.
Tu penses pas que toutes les espèces sont égales?
Jean-Louis trouve ça chiant, c'est que les
attends,
enfants.
Tu m'as pris pour Émeric Caron.
Émeric Caron,
Daniel, tu dis. Enchaîne, va.
Jean-Louis trouve ça chiant parce que les gosses mettent beaucoup plus de temps à devenir propres en plus que par rapport à un chat.
Du temps à ramener les balles surtout.
Ouais. Oh non, ramener les balles, ça marche mieux qu'un chat quand même.
Non. Et demain, on va avoir des plaintes, les amis, à ce moment-là.
Mais non, c'est que de l'humour.
Oui, Philippe.
On aime les chats. Oui, parce que je me suis laissé emporter lorsque Pierre m'a demandé contre qui la finale des barrages. Aston Villa, a priori, ils ont gagné à l'extérieur contre Boro, mais ils ont encore un match à jouer mercredi, le match retour, mais ils mènent 1-0.
Et Derby, là-dedans?
Et Derby, ben, ils se sont ramassés ce soir. Ah. Et voilà. D'accord. Je suis désolé pour toi. Donc, ça sera sans doute Aston Villa, mais pas absolument Aston Villa. Voilà, que les choses soient claires.
Ok. Très bien.
Et le rapport avec le chat de...
Aucun. Mais c'est pas grave.
Absolument zéro.
Voilà.
Mais alors là, vraiment, aucun. Mais c'est...
T'as pas d'animal de compagnie, Philippe?
Non.
Si, moi, j'ai des chats.
Ah, voilà.
Tu vois.
Voilà. J'ai des chats.
Simone, donc, on enchaîne. Avis tranché sur la Juventus.
Oui, parce que je voulais mettre un peu, trouver la place d'un histoire assez...
La mère Michel aussi, elle l'a perdue.
Oh, elle l'a peut-être retrouvée depuis.
Alors, la place d'un histoire.
Oui, vas-y. Le titre de la Juve.
Voilà, c'est titre, donc, ça fait beaucoup de bruit en Italie, entre ceux qui exaltent la Juve, ceux qui disent on a un peu marre. Mais comme chaque titre est différent, et surtout le septième, c'est celui que je trouve les plus importants, mais aussi les plus compliqués dans ces dominations totales de la Juve sur ces dernières saisons. Parce que si les premiers étaient les plus beaux, les totalement inattendus, avec l'arrivée des Conte, l'arrivée des Pirlo, la Juve qui avait une équipe qui était moins forte du Milan et qui a changé peau. C'est septième, Déjà, c'est les signes d'une continuité, d'une domination encore plus totale sur le foot italien. Déjà, ça arrive dans un duel passionnant, mais très beau avec Napoli. Ça arrive dans une saison où la Roma a montré d'être capable de faire des grandes choses en championnat avec des gros matchs, en Ligue des Champions, donc avec des vrais adversaires. Jamais été dans le coup. Non, mais c'était capable de gagner à Naples, c'était capable de mettre, de faire des gros matchs quand même dans la saison. Voilà, donc c'était quand même un adversaire à prendre en considération, beaucoup plus de l'Inter ou Milan qui ont fait des saisons plutôt décevantes. Parce que ça montre qu'au-delà de la force de l'équipe, au-delà de la capacité de l'entraîneur qui était Conte ou Allegri dans ses deuxièmes cycles des 4 ans, il y a eu derrière aussi l'expérience du club, des dirigeants, des Marotta, d'être capable de faire des renouveaux, d'échanger chaque fois des joueurs d'équipe, de vendre Tevez, de faire venir Morata, de prendre Pogba. C'est-à-dire, ils ont fait tellement des choses pour continuer à être gagnants, que ça montre qu'après 7 ans, t'es encore l'élite. Dernière chose, c'est la façon dont il arrive. C'est-à-dire, ils ont été capables de se nourrir de la rage, de moqueries, de petits mots dits et pas dits après l'élimination face au Real, des petits mots dits du Naples après la victoire de Napoli à Turin. Et ça a été très fort à niveau de énervement pour les joueurs de la Juve. Je vous ai raconté l'histoire des Insigne qui s'est moqué un peu de la Juve en disant c'était comme en finale Ligue des Champions, ils l'ont perdu avec nous parce qu'ils ont l'habitude. Hier soir, il y a eu la réponse de Giorgio Chiellini qui, sans jamais nommer Insigne, mais il a dit quelqu'un a parlé trop tôt, quelqu'un a fait la fête trop tôt, quelqu'un a fait partir les feux d'artifice trop tôt. Nous, on part jamais, mais on gagne toujours. Il y a une forme de respect que quelqu'un doit prendre. Déjà, il faut respecter les autres. Et après, quand on manque de respect, il faut s'excuser. Il n'y a pas eu de respect, il n'y a pas eu d'excuses. Et maintenant, il y a nous qui fait la fête et les autres restent en silence. Ça montre quand même que la Juve a eu aussi cette envie de se nourrir de tout ça pour continuer à gagner. Et dans ça, je trouve que ça a été extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'était aussi le premier championnat avec la vidéo qui a bien sûr maintenu beaucoup des polémiques, n'a pas tout arrangé.
Ah bon, pourquoi?
Ah, parce qu'en Italie, c'est le pays de polémiques.
Ah ouais? Donc on peut l'enlever alors, ça sert à rien. Non, s'il y a toujours des polémiques en fait. À une de plus ou une de moins.
Mais c'est un procès d'amélioration que je pense dans 3-4 ans, on aura la meilleure vidéo possible.
Ah bah, on aura pu se préparer alors un peu.
Oui.
D'accord.
Peut-être. Donc, pour toutes ces raisons,
Faut te remettre à tous, hein, Simone, là. Franchement, moi, ça fait 18 ans, j'arrive toujours pas.
Pour toutes ces raisons, c'est les titres les plus importants, mais aussi les plus compliqués de ces 7 ans à la Juve. Il faut vraiment rendre hommage à ce qu'a fait cette équipe.
Très bien. Une fois que tu as mis en avant toutes ces qualités historiques de la Juve et d'être l'équipe qui gagne en Italie, elle a cette image, c'est pour ça qu'elle énerve beaucoup les autres, qu'elle est adorée et en même temps détestée dans le pays. Il y a la question qui se pose, et on en a parlé, puisque c'est toi en plus qui m'a envoyé l'article, et c'est sûr que tu pourras pas en parler là, mais il faut qu'on se donne rendez-vous pour que tu en parles.
Mais je te donne une stat importante.
Le débat qu'il y a en Italie en ce moment qui est très important, c'est si cette hégémonie ne devient pas dangereuse pour la Serie A. Donc, en tout cas, je pense pas qu'il y a une réponse.
Il y a eu de la belle concurrence cette année quand même.
Il y a eu de la belle concurrence.
Mais l'article en question est très très intéressant et mérite d'être évoqué un soir. Donc prenons rendez-vous.
Tu l'envoies que à Daniel quoi. Nous on n'a pas le droit d'être.
C'est un Italien, c'est un Italien.
Et alors, qu'est-ce que t'en sais que je parle pas italien, Simone?
Bah je t'envoierai mes infos aussi et les articles.
Merci Simone.
Sur lesquels je réfléchis aussi à toi. Il y a un stat qui est très important qui va au-delà de la domination de la Juve entre 1969. Et 91, 23 ans, il y a 11 équipes différentes qui ont gagné les titres. Mmh. À partir de 92, c'est-à-dire sur les 23 dernières championnats, 21 fois, il y a les 3 mêmes équipes qui ont gagné. Inter, Milan et Juve.
Sur?
Depuis 92.
23.
Donc 26 ans.
Ouais, il y a le titre de la Roma et de la Lazio.
Roma et Lazio. Les autres 21 fois, c'est Inter, Milan et Juve. Toujours.
Ouais, bah, historiquement, c'est quand même les 3 clubs qui se sont toujours partagés les titres.
Je te disais qu'entre 69 et 91, sur 23 ans, il y a 11 équipes différentes qui ont gagné. Qu'est-ce qui a changé entre 91 et 92? Les droits télé. Ce n'est rentré la télé payante, les droits télé, qui a enrichi encore plus, surtout Inter Milan et Juve, qui sont les trois clubs qui prennent plus des droits télé.
C'est parce que pendant un moment, il y a eu une négociation individuelle des droits, donc ça les a beaucoup enrichis. Voilà. Ils ont eu des systèmes de répartition qui étaient un peu...
Et c'est mis en œuvre un système qui aujourd'hui continue à
donner beaucoup. Oui, mais cette stat, elle nous dit quoi? T'auras des chiffres similaires en Allemagne, en Espagne. Aujourd'hui, la vraie question, et c'était intéressant dans l'article, on a quand même le droit, et c'est un peu la même chose aussi en France. Et la question se pose aussi pour le Bayern, c'est quand à un moment tu écrases trop ton championnat, est-ce que tu ne souffres pas au moment de la grande bataille européenne? C'est une question. L'hégémonie, elle est bonne pour le développement même de la Serie A.
Le Bayern, la Juve arrive à briller aussi sur le plan européen.
Oui, non mais certainement.
Ça aide à niveau pour la vente.
Certainement, mais en Allemagne, la question elle se pose aussi un petit peu du Bayern qui gagne tout le temps. Est-ce que après, quand tu tombes sur un Real qui où t'as l'impression d'être supérieur à lui, mais il est tellement habitué, avec peu il fait beaucoup. Enfin, t'as quand même des frustrations qui sont en train de naître.
Ouais, mais est-ce qu'il y a une corrélation avec ton hyper dominance dans ton pays, ou alors est-ce que c'est juste parce que le Real, en ce moment est très souvent plus fort que les autres.
Je dis pas que c'est l'explication principale. Je dis que ça fait partie des différentes composantes qui et l'hégémonie dans un championnat, je ne pense pas que ce soit bon pour le développement de ton championnat. Quand on dit que le PSG c'est bien quand il recrute des stars et tout.
Mais après tu peux pas la
bloquer. Oui, c'est une très bonne chose à condition
que ça suive un peu derrière.
Que ça suive, que ça augmente et ça va le faire les droits télé pour tout le monde, que ça permette aux autres équipes et ben comme l'OM cette année par exemple de briller en Coupe d'Europe,
il faut qu'on
que ça resserre l'élite. Oui,
il faut qu'on avance. Moi, de l'extérieur comme ça en Italie, j'avais l'impression que c'était un peu le cas cette année.
Oui, mais je dis pas que ça n'est pas le cas. Simonet. Je dis qu'il y a des mecs qui ont posé la question et que ça mérite débat. Je dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dans l'article. Je dis juste que la question mérite d'être abordée.
On prendra du temps pour aborder cette question. Simonet, en une minute, deux actus fortes. Donc, le départ de Sarri, qui se dessine de plus en plus de Naples, et l'officialisation de Mancini.
Voilà, Mancini a été officialisé ce soir. Je m'attendais à demain, mais on a avancé bien les choses.
Comme donc,
c'est le nouveau sélectionneur de l'Italie. C'était un peu attendu. C'est l'entraîneur qui a plus voulu être nommé sélectionneur, et donc c'est sa volonté qui a pesé beaucoup dans les choix de la fédération. Et on trouve chaque jour il y a des nouvelles petites déclarations de Laurentiis et des Sarri qui font comprendre que c'est vraiment la fin du mariage. Et apparemment les contacts entre Ancelotti et De Laurentiis sont très fréquents, et Ancelotti aurait donné effectivement sa disponibilité. Ça manque une accorde économique et ça manque l'officialisation du départ de Sarri. Mais aujourd'hui, Ancelotti est beaucoup plus proche à Napoli qu'à n'importe quelle équipe en Europe.
Très bien, voilà pour l'Italie.
Bonne nouvelle.
Un message sur Twitter de Seven. Bien souvent, je préfère nettement mes chiens, chats, chevaux ou loups aux hommes. Les animaux ont de plus belles valeurs et ne sont pas hypocrites, envieux ou jaloux, eux, contrairement à l'homme.
Non, mais des fois, ils mordent aussi.
Oui. Et sinon, nous avons Jonathan McCarty qui nous a envoyé ses tatouages, que lui, il s'est tatoué les prénoms de ses animaux sur le corps. Et ça, c'est un autre style encore. Là. On a passé un niveau.
J'espère que c'est pas des hamsters, parce que sinon, il restera pas beaucoup de place, d'ici.
Ou un poisson rouge.
Jingle Lorto, l'Allemagne.
Ah, Jung, ich bin der liebe Gott. Un écheilleur d'herbe.
C'était de l'allemand ?
Ouais.
Tu sais l'allemand ?
Bah tu vois.
En quoi la relégation d'Hambourg est donc historique, David ?
Quel grand film.
Alors,
quand même,
effectivement, on est obligé d'en passer par là ce soir. On aurait pu parler de la belle saison d'Offenheim, par exemple, qui est la belle surprise de la saison de Bundesliga. On aurait pu parler de Fribourg, qui s'est brillamment maintenu malgré le départ de ses deux meilleurs joueurs, et d'autres encore, comme Schalke, qui est deuxième de cette Bundesliga 2017-2018. Mais évidemment, 55 ans après la création de la Bundesliga.
À force de tourner autour du pot, David, c'est tombé, on est tombé dans le pot.
Ben oui, ça fait 55 ans que la Bundesliga existe, 19 987 jours. Hambourg avait passé 19 985 jours en Bundesliga, et lui qui était un des créateurs historiques de cette Bundesliga, il vient donc de descendre. Uwe Seeler, qui était le meilleur buteur de la Bundesliga, légende d'Hambourg, 81 ans si ma mémoire est bonne, qui était le meilleur buteur de la première saison en 1964, avait dit « J'espère ne jamais vivre, que jamais de mon vivant, ce club du HSV descendra en Bundesliga 2 ». Et bien c'est fait. Et ce que je voulais dire ce soir, c'est qu'à mon avis, C'est une bonne nouvelle. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut en passer par la deuxième division pour purifier certaines choses forcément, mais il me semble que cet exemple d'Hambourg est bon là. Pourquoi ? Parce que on a vu par exemple du côté des supporters, du côté des ultras ce week-end, alors que tout le monde applaudissait, respectait, honorait les joueurs qui ont fait les efforts pour ne pas descendre et qui finalement descendent, on a vu quelques centaines, entre 100 et 300 ultras mal agir et envoyer des engins pyrotechniques sur le terrain juste avant la fin du match.
David, si tu me permets juste de te couper, oui. Pourquoi tu parles d'Hambourg ? Tous les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas non plus, et peut-être pas les plus jeunes, mais peut-être en deux mots rappeler, alors c'est vrai que tu l'as dit, que c'est ils ont toujours été en Bundesliga, mais ça, historiquement, ce que représente d'abord ce club, la région dans laquelle se trouve ce club, la ville et son importance en Allemagne.
Ils ont gagné une C1 aussi.
Ils ont gagné en 83, oui, ils ont gagné. Contre la Juve, mais tout le monde gagne.
Oui,
contre
bien
la
sûr, Daniel, finale, c'est vrai. C'est vrai.
Borussia Dortmund.
Donc, Hambourg en Allemagne, ça représente énormément quand même.
Ça représente énormément. C'est l'une des villes les plus puissantes et les plus riches de tout le continent, évidemment, Hambourg. 1 800 000 habitants. Juste la ville, parce qu'après, il y a 5 millions d'habitants tout autour. C'est l'une des villes les plus puissantes du continent. Et d'ailleurs, par parenthèse, je ne sais pas si vous avez beaucoup dans vos championnats de villes de plus d'un million d'habitants qui ne sont pas en première division, parce que, d'ailleurs, Daniel, on y était allé pour Transversal, voir Saint-Pauli, il y a deux clubs mythiques à Hambourg, le HSV et Saint-Pauli, et ni l'un ni l'autre ne seront en première division l'année prochaine, ce qui est évidemment en Allemagne un événement majeur. Et voilà, ce que je voulais dire quand même, pour revenir donc à ce club d'Hambourg, le HSV, c'est que, à mon avis, ça va faire du bien dans un certain sens, cette descente. Pourquoi ? Parce que ça va permettre, il va falloir, ça va être une nécessité, ça va permettre d'évacuer peut-être quelques acteurs un peu négatifs à l'intérieur du club, notamment des ultras, des jeunes supporters qui étaient peut-être protégés dans leur environnement, dans les tribunes. Ça va obliger le club à agir à ce niveau-là. Ça va obliger le club aussi à une certaine purification financière. Le budget de l'année prochaine a déjà été annoncé, 30 millions d'euros. L'investisseur Klaus...
Ah ouais, alors Klaus que c'est Michel un club qui tournait autour de 150-200 millions, non ?
30 millions d'euros l'année prochaine. C'est d'ores et déjà annoncé. Les joueurs qui restent vont devoir baisser leur salaire de 30 à 40%. Ceux dont le contrat arrive à la fin, c'est-à-dire Aaron Hunt, c'est-à-dire Lewis Holtby, c'est-à-dire Denis Stigmeier, c'est-à-dire Sead Salihovic, Nikolai Müller, Sven Schiplock, risquent de partir.
Mais il y avait des bons joueurs quand même dans cette équipe ou pas du tout?
Alors en revanche, il y a des joueurs très importants qui ont déjà annoncé qu'ils allaient rester. Il y a Sakai, pas celui de Marseille, l'autre, qui a annoncé qu'il allait rester, le capitaine.
Je savais pas qu'il y avait un autre Sakai.
Notamment, il y a Kyriakos Papadopoulos, le grec, qui est un joueur emblématique de cette équipe. Il en reste quand même quelques-uns qui a annoncé qu'il allait rester l'année prochaine. L'entraîneur Christian Titz, 4 victoires en 8 matchs cette saison, qui a pris le club très tardivement, et pour lequel les joueurs auraient espéré qu'il arrive plus tôt, qui vient de l'équipe réserve, a annoncé qu'il allait rester aussi. Il propose un jeu beaucoup plus offensif, beaucoup plus intéressant que les entraîneurs précédents. Donc voilà, mon résumé pour Hambourg, pour la saison qui vient, c'est qu'il y a peut-être moyen, et c'est peut-être l'occasion, la chance, entre guillemets, l'opportunité en tout cas de repartir sur des bases plus saines, plus raisonnables, financièrement, sportivement, et aussi dans l'environnement du club, parce que ça finissait par devenir vraiment, vraiment délétère. Et les dernières saisons, comme l'a dit d'ailleurs Uwe Seeler, et j'en reviens à sa citation, on peut pas réussir un miracle permanent. Il y avait eu plusieurs miracles en barrage, plusieurs miracles aussi à la limite de la relégation pour Hambourg. Ça devait arriver, c'est cette année. C'est peut-être l'occasion de repartir sur de meilleures bases et de retrouver le club dans un an.
C'est
et
quoi C'est un peu comme si Arsenal descendait en deuxième division en Angleterre, Hambourg à peu près.
Exactement.
C'est un peu un truc comme ça, quoi.
Everton, et je dis Everton parce que je voulais juste vous signaler que Sam Allardyce va être viré d'Everton et que
dis donc alors comment ça
et
se fait.
Oui, et ben écoute,
l'excellent Sam Allardyce.
Voilà. Donc je repasse la balle. Voilà. Oups.
David, c'est intéressant ta réflexion parce que on a un exemple en Espagne d'un gros club qui s'appelle Atlético. On peut un peu ça peut essayer d'être comparable, qui sont descendus en 2000 et ils sont remontés au bout de 2 ans. Et ils ont fait de gagner deux Ligue Europa déjà. ils vont jouer gagner peut-être une troisième. Et ils ont joué deux finales de Ligue des Champions. Et voilà, donc parfois cet assainissement est pas mal et ça permet aussi de savoir qui est qui dans ton club.
Ouais.
Mais c'est, oui, voilà. C'est ça. Alors après, ouais. statistiquement, dans l'histoire de la Bundesliga, seuls 32% des équipes qui descendent remontent l'année d'après. Peut paraître beaucoup, mais ça fait jamais qu'un tiers, quoi.
Eh ben, exactement. Messieurs, merci beaucoup. Merci les drôles de dames.